Le risque de contagion n'est évidemment pas à sous-estimer, mais pas à surestimer non plus, dans la mesure où, pour le moment, il n'y a aucun parti au pouvoir dans les autres États membres qui envisagent d'organiser un référendum sur la participation, sur le maintien de son pays dans l'Union européenne. Il y a bien sûr des demandes, mais pour le moment, elles émanent uniquement de partis qui sont dans l'opposition. Mais le Royaume-Uni montre que parfois, les pressions venant de l'opposition peuvent conduire les gouvernements à ce genre de décisions. Donc, un risque de contagion, ce n'est pas totalement à exclure, mais ça me paraît quand même assez peu probable, d'autant plus que tout le monde semble maintenant prendre conscience que ce n'est pas si facile que ça de se retirer de l'Union européenne, que les questions sont très nombreuses.
Et quel type de relation entre les 27 et le Royaume-Uni?
Écoutez, ça c'est, je crois, la toute grande question qui se pose tant pour le Royaume-Uni que pour les 27. Et à mon sens, si au Royaume-Uni on tarde quelque peu à officialiser le retrait, c'est parce que on voudrait y voir plus clair sur l'avenir. Mais en fait, il y a beaucoup de scénarios possibles. Tout le monde semble d'accord pour dire qu'il ne faut pas rompre les ponts, personne n'y aurait intérêt, qu'il faut maintenir des relations économiques, qu'il faudrait sauvegarder le plus possible du marché intérieur. Mais d'un autre côté, on sent bien que du côté des 27, on ne veut pas donner l'idée qu'on pourrait se retirer et puis finalement avoir tous les avantages sans les inconvénients ou sans les contraintes. Donc les négociations vont sans doute être assez difficile, et ce qui est clair, c'est que pour le moment, aucun des grands types d'accords qu'on connaît, que ce soit l'espace économique européen, ou l'accord avec la Suisse, ou l'accord avec la Turquie, ne conviendrait aux deux parties. Donc il va sans doute falloir inventer quelque chose qui soit fait sur mesure pour cette situation tout à fait spécifique du Royaume-Uni, qui est un très grand pays, dont l'Union européenne a besoin, qui a besoin de l'Union européenne et qui, d'un autre côté, voudrait, par exemple, avoir moins de liberté des travailleurs. Mais c'est difficile d'imaginer que les autres pays lui accordent la libre circulation des travailleurs ou qu'ils puissent refuser la libre circulation des travailleurs, plutôt, et, par exemple, demander le libre accès au marché pour ses banques. Il va y avoir un donnant-donnant, inévitablement.
Il y a une pétition déjà qui circule qui demande un nouveau référendum. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut peser? Et on voit aussi l'ancien maire de Londres qui commence à baisser le ton.
Honnêtement, je pense qu'un retour en arrière complet paraît peu probable. Mais par contre, que du côté des partisans du Brexit, on se fasse à l'idée que même avec un départ du Royaume-Uni, il ne sera pas possible de récupérer la totalité de sa souveraineté et que le maintien des relations avec l'Union européenne aura un coût, y compris éventuellement financier, ça me paraît beaucoup plus vraisemblable. Mais imaginez qu'on organise un nouveau référendum, c'est quand même une machine énorme, et puis on ne sait absolument pas le résultat que cela va pouvoir donner. Ça peut entraîner une série, on ne sait même pas si les 3 millions vont voter oui, enfin vont être pour le maintien. On ne sait même pas si les personnes qui votent dans cette pétition ont le droit de vote pour le référendum. Ça me paraît difficilement imaginable qu'on organise un nouveau référendum ou alors que le Parlement britannique, où on sait qu'il y a quand même aussi beaucoup d'eurosceptiques, finalement disent, en dépit du vote au référendum, on décide de rester. Mais probablement que ça va amener peut-être plus de sagesse dans la négociation des relations futures entre le Royaume-Uni et le reste de l'Union européenne. Et
le Brexit a créé un séisme mondial sur les marchés, un bouleversement extraordinaire jusqu'au-delà de l'Atlantique. Est-ce que c'est une situation qui peut être maîtrisée?
Là, je dirais, ça va dépendre des prochains jours, parce que s'il y a bien une chose que les investisseurs et que les marchés n'aiment pas du tout, c'est l'incertitude. Et donc, Je crois que du côté des autorités britanniques, même si on sent qu'elles veulent se donner un certain temps de la réflexion, il va falloir qu'elles donnent des signaux beaucoup plus clairs rapidement. Parce que si, du côté des entreprises, du côté des marchés, on ne voit pas du tout vers où on va, à ce moment-là, le risque est grand d'une panique sur les marchés. Et le risque est grand aussi qu'un certain nombre d'investisseurs préfèrent prendre les devants et dire finalement mieux vaut aller s'installer sur le continent parce que là au moins on sait à quoi s'attendre. Donc les marchés ont mal réagi, mais si des balises claires sont données aux marchés et qu'ils savent à quoi se raccrocher, alors les choses peuvent revenir plus au calme sur le marché. Il est quand même très frappant de voir que ces deux secteurs qui sont particulièrement touchés sur les marchés, le transport aérien et les banques, parce que pour les banques britanniques et pour les transporteurs aériens britanniques, savoir s'ils vont pouvoir conserver leur passeport Union européenne est fondamental parce que, prenez l'exemple des transports aériens, c'est maintenant un accord entre l'Union européenne et les États-Unis. Et donc, si les transporteurs britanniques n'ont plus le label européen, ils vont devoir renégocier un accord avec les États-Unis. Et ça les inquiète évidemment énormément et c'est la raison pour laquelle il voudrait pouvoir voir clair le plus rapidement possible.
On voit aussi que le Brexit menace l'union du Royaume-Uni, l'Écosse et l'Irlande du Nord qui pressent pour un référendum en vue de recouvrer leur indépendance et qui pressent pour maintenir les relations avec l'Union européenne. Comment vous analysez cette situation?
Écoutez, c'est une situation qui va être aussi très difficile à gérer pour l'Union européenne elle-même. Parce que d'un côté, évidemment, ça peut paraître sympathique et de se dire « Oh, les pauvres Écossais qui voulaient rester dans l'Union européenne, on va leur donner une place ». Mais il faut savoir que ces mouvements régionaux existent aussi dans plusieurs autres États membres de l'Union. Je pense à la Catalogne en Espagne, je pense à la Flandre en Belgique. Et si, évidemment, on reconnaît l'indépendance de l'Écosse et qu'on lui facilite le maintien ou le retour dans l'Union européenne, il sera difficile après de dire à ces autres régions « Ah oui, mais vous, votre situation est complètement différente ». Et donc, c'est en fait un domino là aussi qui risque de se mettre en place. Et donc, ce ne sera pas si facile pour ça, pour l'Écosse, de pouvoir organiser un nouveau référendum. Il faudra qu'elle ait l'accord du gouvernement central britannique. Et puis, il y a finalement l'effet de contagion là aussi, auquel les autres États et l'Union européenne sera très attentive.
Est-ce que ce référendum, c'était une erreur?
Oh, clairement, c'était une grave erreur politique. Je crois que tous les observateurs sont d'accord pour le reconnaître. En fait, David Cameron a joué au poker au moment de l'organisation des dernières élections. D'abord, il a cru qu'il ne serait pas seul au pouvoir et que donc il serait obligé de faire marche arrière par rapport à ce référendum parce que ses partenaires de gouvernement ne l'accepteraient pas. Et puis finalement, les conservateurs ont gagné la majorité absolue. Et puis là, il s'est senti obligé d'organiser ce référendum. Et puis comme il avait finalement pratiquement tous les partis sauf le UKIP qui étaient en faveur du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, que tous les milieux économiques plaidaient aussi pour ce maintien, que même les syndicats étaient relativement en faveur, eh bien, il s'est dit le UKIP tout seul, eh bien, ce sera facile de les isoler et ça va finalement mettre de côté les eurosceptiques. Et en fait, il n'a pas du tout mesuré l'impact de tout ce qui était passionnel et qui a déferlé pendant la campagne référendaire où finalement on n'a quasiment pas parlé d'Union européenne, mais on a parlé d'immigration, on a parlé de la grandeur passée du Royaume-Uni, de récupérer la souveraineté du Royaume-Uni. Et maintenant, on voit que finalement, ce ne sera probablement pas le cas même après le Brexit. Et donc voilà, il sait qu'il était un habitué des coups de poker qu'il avait gagné haut la main jusque-là. Et là, pour une fois, ben, il s'est brûlé les doigts et malheureusement, tout le monde avec lui.